Vous écoutez, on lit pour vous.
Haïti, histoire. La semaine Eddie Cavé. À propos de l'ouvrage « Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion ». 1 de 7. Un texte de Leslie Péan, paru le 7 janvier 2025 dans « Alter Press ». Convaincu que la situation politique ne demeure pas sans espoir, Leslie Péan reprend un texte qui analyse l'œuvre d'Eddie Cavé. Il le publie en l'augmentant dans la presse pour en donner l'accès le plus large à une jeunesse qui refuse de digérer l'immensité d'un échec. Puisse son texte inciter à de vrais débats sur l'ampleur de la ruine, ses lointaines origines et la nécessité de rétablir la confiance dans le futur en mettant fin aux empoignades que produit la recherche du pouvoir à tous les prix. Parmi les nombreuses études consacrées à la Révolution haïtienne de 1804, rares sont celles qui traitent spécifiquement de l'acte de l'indépendance ou du sort fait à ses principaux signataires. Ce sujet, ne figurant pas au menu des préoccupations de nos historiens, Eddie Cavé convie à cette rétrospective et soulève diverses questions restées jusqu'ici sans réponse sur ce sujet. Avec une approche didactique qui commence par une excellente mise en situation. En retraçant le parcours de vie de la société haïtienne, l'auteur estime que, sans une refonte systématique des idées dominantes, les récurrences de nos malheurs ne peuvent que continuer jusqu'au moment où, comme ce fut le cas durant la période 1904-1915, l'appel à une occupation étrangère deviendra inévitable. Les générations d'aujourd'hui sont confrontées à ce dilemme comme leurs prédécesseurs le furent un siècle auparavant. Pour entreprendre sa réflexion, Eddie Cavé s'est installé au carrefour critique des circonstances qui ont déterminé les idées et guidé les acteurs de la scène politique haïtienne. 1804. En entrant sur ce terrain connu, ou que l'on croit connaître, il commence par informer. Ainsi, son ouvrage comporte plein de surprises qui vont au-delà de l'inscription dans cette rétrospective articulée autour du destin tragique de la plupart de ses 37 pères fondateurs. Un vrai regard panoramique. Haïti est pré-inscrite dans la globalité depuis la période coloniale, au cours de laquelle les puissances de l'heure, l'Espagne, l'Angleterre et la France, s'entretuaient pour s'emparer d'elle à cause de ses richesses et de son potentiel économique. Sous des dehors trompeurs, la politique se fait essentiellement dans cet objectif apparemment mesquin et non pour obtenir des épaulettes et des galons. Ce que les pères fondateurs n'ont pas assimilé pleinement en privant l'État des ressources financières nécessaires à l'accumulation du capital, autrement dit, à son fonctionnement et sa reproduction. En effet, l'État d'Haïti n'a jamais eu les moyens financiers nécessaires pour réaliser ses activités. Il n'a pas eu non plus l'intelligence de faire appel aux détenteurs de capitaux en partageant avec eux des postes de responsabilité, tant politiques qu'économiques, pour le redémarrage de l'économie et le financement de l'éducation dans une optique scientifique. Une telle inscription dans la globalité aurait atténué l'immersion mentale dans le passé chez les Bossal, charriant dans leur mémoire leur vente aux négriers blancs par leurs propres frères noirs. Atténuation qui aurait aussi permis une ouverture sur d'autres représentations du monde. Les chances de fonder les rapports sociaux sur la confiance auraient alors été plus grandes, surtout après les tueries des chefs africains effectuées par Dessalines et Christophe. Enfin, il aurait été possible d'introduire une certaine discipline sociale en mettant un bémol au « nous fais ça nous pipito » et faisant reposer la politique sur de solides bases économiques et monétaires. Le motif initial du refus de reconnaître que les citoyens ont des droits inaliénables n'est pas difficile à suivre d'un gouvernement à un autre à partir de 1804. Il est parfois déguisé, mais il est toujours présent. Tous les gouvernements, sans exception, ont utilisé la force des baïonnettes pour asseoir leur domination, entretenir l'inquiétude et la peur. La réflexion profonde est orientée vers cet aspect très particulier de notre histoire. En donnant la parole à tous, dans l'optique de cette citation faussement attribuée à Voltaire, « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Un contexte de pandémie. Dans le contexte de la pandémie, qui exige le port d'un masque protecteur dans le monde entier, extermination des pères fondateurs et pratique d'exclusion a remplacé le titre original du livre qui était « Bas les masques ». Un face-à-face appelé a laissé le lecteur stupéfait et où l'on voit l'auteur s'affairer à arracher des masques. Simple métaphore ? Opération de marketing ? Éclairage tardif sur les attitudes et comportements trompeurs de nos premiers dirigeants ? Dans ce monde, revendiquant la fierté et l'honneur, les masques sont devenus un accessoire essentiel et ils ont effiloché l'ensemble du tissu économique, politique et social. À un autre niveau, ils ont contribué à ruiner le pays tout entier au profit des affairistes qui forment ce que le professeur de philosophie Marcel Gilbert appelle la classe politique de pouvoir d'État. Si le masque sanitaire doit être porté pour protéger les vies humaines contre des virus mortels, il importe, dans le cas d'Haïti, d'arracher ceux qui cachent la complexité des choses humaines et les visages des dirigeants. En particulier, ceux qui entravent toute possibilité de progression sociale. À ce sujet, le plus important est celui que l'économiste et industriel Edmond Paul nomme « le masque des faux patriotes ». Eddie Cavé s'est efforcé de l'arracher du visage des chroniqueurs et historiens dont la marque de fabrique est devenue au fil du temps un certain amour acritique des aïeux. Vous écoutez Haïti Histoire, la semaine Eddie Cavé à propos de l'ouvrage Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion, 1 de 7, un texte de Leslie Péan, paru le 7 janvier 2025 dans Alter Press. Cette manière non dissimulée et même affirmée de nos historiens de souligner inlassablement et sans analyse les aspects positifs de l'héritage de leurs héros préférés, tout en passant sous silence leurs erreurs et leurs faux pas, a conduit à un chauvinisme extrêmement préjudiciable pour la nation. Un legs que chaque nouvelle génération reçoit bêtement dans les salles de classe et à la radio. C'est ainsi que nous nous sommes abstenus d'analyser froidement les conflits d'intérêts, de personnalités et autres qui ont empoisonné les premières années de notre vie de peuple, conduit à la guerre civile, à la scission du pays et entravé notre développement ultérieur. À partir d'une réflexion sur l'acte de l'indépendance, dont les plus influents des 37 signataires, soit 25 mulâtres, 11 noirs et 1 blanc selon certains, 26 mulâtres et 11 noirs selon d'autres, se sont entretués entre 1805 et 1820. Les projecteurs sont braqués sur un large volet trop longtemps négligé de notre histoire. Les 37 signataires militaires prennent de court la société en formation. L'ombre du brigandage plane depuis lors avec des officiers secondaires tels que de Renoncourt, Loret et Macajou qui ont signé l'acte de l'indépendance, tandis que leurs supérieurs, Basile, Leblanc, Lafleur, Vaval, Bruny, étaient écartés. Comment comprendre que Loret, qui avait fait défection à la crête à Pierrot et rejoint les Français, soit un des signataires? Avant de devenir banal, le mal était à la racine. Dans l'armée, La seule institution qui existait alors, les normes ne sont pas respectées. Ce brigandage qui s'installe dans l'unique institution nationale devait aboutir, entre autres, à la conspiration d'Alzon en 1843. Les mots dièse, hashtag, noir et mulâtre et la race noire. On ne saurait occulter la complexité de la situation du nouvel État d'Haïti, dont la richesse dépendait de la production des denrées, café, sucre, coton et indigo, et du commerce extérieur. Une complexité qui ne se prêtait à aucune simplification, étant donné que la substance et le caractère des luttes ne cessaient de changer. La société de Saint-Domingue, avec 40 000 blancs et 30 000 mulâtres et 450 000 noirs, comprenait une hiérarchie de classes et de couleurs dépourvues de toute moralité. Au bas de l'échelle sociale se trouvaient les Noirs, enfermés dans la condition d'animalité dictée par le Code noir promulgué par Louis XIV en 1685. Au sommet, il y avait les grands blancs aspirant à l'indépendance pour sortir du système commercial de l'exclusif qui les forçait à vendre toute leur production à la France et de n'acheter que de la France. Pris en étau entre ces deux groupes antagoniques, les commissaires jacobins proclameront la fin de l'esclavage pour se rallier les Noirs révoltés aspirant à la liberté. Les mulâtres, qui possédaient un tiers des terres et un quart des esclaves, réclamaient l'égalité avec les Blancs. Toutefois, certains mulâtres étaient aussi esclaves, tout comme certains Noirs créoles avaient des esclaves et se tiraient d'affaires assez bien dans cette société raciste au plus haut point. Les nouveaux libres étaient naturellement opposés à l'esclavage et favorables à la liberté. Les Noirs créoles, en lutte contre les bossales, voulaient l'accès à la terre et à l'éducation. La mobilisation des esclaves baptisés catholiques a pris une autre dimension avec la cérémonie du bois caïman. Enfin, d'un côté, les antagonismes entre les puissances coloniales conduisent l'Espagne et l'Angleterre à appuyer les nouveaux libres pour affaiblir la France. De l'autre, les commerçants américains approvisionnent en armes et munitions les anciens et nouveaux libres en échange de café et de sucre. Sur fond de tumulte et de massacres entre blancs, mulâtres et noirs, les schèmes de représentation de ces catégories sociales vont bloquer toute évolution. Leurs pertinences inscrites dans des mythes et croyances archaïques engendrent un déclin graduel, grandement façonné par la lutte de tous contre tous, le Chen Manje Chen. Les 37 signataires de l'acte de l'indépendance constituent la fine fleur de l'armée qui a gagné la guerre de libération nationale. Ces personnages, qui vont diriger Haïti au cours des 55 prochaines années, sans devoir ne rendre de compte à personne, ne sont pas tombés du ciel ni issus d'une génération spontanée. Estimant que ce pays qu'ils ont créé au péril de leur vie leur appartient, ils le perçoivent dans l'éthique de conviction dont parle le sociologue Max Weber. Ils sont donc les seuls à prendre des décisions. Exit toute éthique de responsabilité sociale de l'homme d'État examinée dans la problématique de Hans Jonas. Les revendications du peuple pour l'accès à la terre, les droits à la parole, l'éducation et la justice sont considérés comme des jérémiades, des plaintes que les chefs et autorités n'écoutent pas. Suite à la politique terrienne de l'empereur Dessalines, recherchant un modus vivendi avec les propriétaires mulâtres d'une part, et l'application d'une politique de travail forcé rappelant le caporalisme agraire précédant l'indépendance d'autre part, les nouveaux libres n'accepteront pas de travailler quasi gratuitement et ils exprimeront ce refus en s'enfuyant dans les montagnes. À suivre. C'était Haïti, histoire, la semaine, Eddie Cavé, à propos de l'ouvrage « Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion », 1 de 7, un texte de Leslie Péan, paru le 7 janvier 2025 dans Alter Presse.
Boom touristique au Groenland. Un texte de Magdalene Boutros paru le 10 mars 2025 dans Le Devoir. Ouverture de nouveaux aéroports, multiplication des croisières, diversification des expériences hivernales. L'industrie touristique au Groenland vit son envol, ce qui pourrait contribuer à renforcer l'économie de l'île. En un an, on va doubler le nombre de touristes à Nuuk, s'enthousiasme Henrik Skidsbjerg, propriétaire de Tupilak Travel, une agence qui propose une panoplie d'activités touristiques dans la capitale du Groenland et ses environs. En octobre 2024, l'aéroport international de Nuuk a accueilli ses premiers vols. Jusque-là, les touristes arrivant de l'extérieur de l'île devaient atterrir à Kangerlussuaq, plus au nord, avant de prendre une deuxième liaison interne pour atteindre Nuuk. Un parcours éreintant. On n'a jamais été une destination touristique avant cette année parce que c'était vraiment très cher de venir à Nuuk, souligne M. Skidsbjerg. Et les touristes, surtout européens et principalement danois, étaient avant tout attirés par les fjords d'Ilulissat et ses immenses icebergs de la baie de Disco. À l'ouverture de l'aéroport de Nuuk, le premier ministre groenlandais Mout Hegede n'a pas manqué de faire un lien avec la quête d'indépendance du territoire. « Le monde s'ouvre véritablement à nous », a-t-il déclaré, rapporte le média Nuuk Daily News. « L'été prochain, il sera désormais possible de nous rejoindre directement depuis d'autres pays, sans passer d'abord par le Danemark », ce qui nous permettra de développer et de gouverner notre pays de manière plus indépendante. Deux autres nouveaux aéroports devraient entrer en fonction d'ici 2026 dans l'île, située au nord de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Éviter le tourisme de masse. Pour Malina Abelsen, ex-ministre de l'économie du Groenland, rencontrée à Nuuk, l'industrie touristique est un maillon essentiel de la diversification et du renforcement de l'économie du territoire qui veut acquérir son indépendance face au Danemark. Notre économie doit reposer sur plusieurs piliers, soutient-elle en rappelant que l'activité économique de l'île repose en ce moment essentiellement sur l'industrie de la pêche. Le tourisme offre une voie prometteuse, mentionne-t-elle. Mais nous devons développer ce secteur de manière durable. Nous ne voulons pas devenir comme l'Islande, qui accueille 2 millions de touristes chaque année. Nous serions inondés. Pour développer une industrie durable, contrôlée localement, le gouvernement a adopté en octobre une loi obligeant les entreprises touristiques à être détenues aux 2/3 par des intérêts groenlandais. C'est important qu'on fasse les choses à notre manière, abonde Henrik Skidsbjerg, disant vouloir éviter les pièges du tourisme de masse. Pour miser sur l'intérêt des voyageurs pour l'exotisme polaire, composé de balades en traîneau à chien, de sorties en kayak dans les fjords et de promenades sous les aurores boréales, d'importants investissements dans les infrastructures sont attendus, notamment pour bonifier l'offre hôtelière. S'il y a 3 avions qui sont cloués au sol en même temps dans les prochains mois en raison des mauvaises conditions climatiques, ça va être tout un défi de trouver un endroit pour loger tous ces gens, fait remarquer M. Skidsbjerg. Ce que le Groenland vit en ce moment en matière de tourisme est très excitant, ajoute-t-il. L'actualité internationale a projeté le Groenland à l'avant-scène. On est sous les projecteurs comme jamais avant, et il y a sûrement du positif à tirer de tout ça. C'était « Boom touristique au Groenland », un texte de Magdalene Boutros paru le 10 mars 2025 dans Le Devoir.
rechercher Homme aux antipodes d'Andrew Tate, un texte de Philippe Mercure, paru le 18 mars 2025 dans La Presse. Appelez ça un problème de représentativité. Sur les réseaux sociaux, ceux qui sentent le besoin de crier « Je suis un homme » semblent tous taillés sur le même modèle. Vous savez, le genre à exhiber ses biceps, à parader dans un char rouge pétant et à dire des choses comme « Je suis invincible, je suis un pourvoyeur et c'est ma femme qui verse le lait dans mes céréales. » L'écrasante majorité des hommes ne sont pas comme ça. Ils regardent Andrew Tate et ses disciplines comme on regarde une caricature de Serge Chapelot en moins drôle et plus effrayant. Leur masculinité à eux est d'un autre type. Mais ils ne ressentent pas nécessairement le besoin de l'abrandir. Qui sait, peut-être trouvent-ils plus utile et épanouissant de cuisiner un macaroni familial et d'aller reconduire la plus jeune à son cours de violoncelle que d'afficher leur testostérone sur X. Michael Carlier, pourtant, aimerait qu'on voit davantage ces hommes à la masculinité positive et il lance un concours pour les trouver. Est-ce que ces hommes-là existent? Oui. Maintenant, on veut savoir qui ils sont, ce qu'ils font et à quoi ils ressemblent. Pourquoi ils sont potentiellement inspirants, m'explique le fondateur de l'organisme Des Hommes qui changent, dans le café de Rosemont où il m'a donné rendez-vous. Le concours est en ligne dès maintenant. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 18 mai 2025. On cherche des hommes dans 5 catégories : citoyens, jeunes, éducation, personnalité publique, professionnels. Avant de conclure que ce n'est pas pour vous et de passer à l'écran suivant, je vous incite à lire un peu plus, parce que l'argumentaire de Michael Carlier est intéressant. Et je suis persuadée que le contexte actuel rend ce concours encore plus pertinent. Donald Trump, Vladimir Poutine, J.D. Vance, Elon Musk, plusieurs des hommes les plus puissants de la planète envoie une triste image du mâle ces temps-ci. Qu'on le veuille ou non, le message voulant que la domination conduise au succès peut faire mouche. Et je suis d'accord avec Michael Carlier pour dire qu'on a drôlement besoin de mettre de l'avant des visages différents, ne serait-ce que pour fournir d'autres modèles à nos garçons. Il y a la tape dans le dos pour les gagnants, mais c'est surtout d'amener cette conversation dans la sphère publique, dit l'organisateur, à propos des objectifs du concours. M. Carlier, un Français installé au Québec depuis 25 ans, est consultant en événementiel et en impact social. Il s'intéresse à la masculinité depuis quelques années et a même écrit un roman sur le sujet en 2021. Aride, un récit sur les relations père-fils. Il est convaincu que les hommes, malgré leur réticence, doivent sauter dans le sujet de la masculinité. Ce sont des réflexions, dit-il, qui sont portées depuis des décennies par les mouvements féministes et donc par les femmes. Là, on sent qu'il y a une nécessité que les hommes s'approprient une part de cette discussion. On se réapproprie notre responsabilité dans cette conversation, finalement. Même si le concours en est à sa deuxième édition et que l'organisme Des Hommes qui changent existe depuis 2023, Michael Carlier m'avoue quelque chose qui me fait avaler ma gorgée d'expresso de travers. Même dans les médias, ce sont surtout les journalistes féminines qui s'intéresse à sa démarche. Depuis un an et demi, j'ai parlé à plein de monde dans des podcasts, des médias de grande et de petite taille, et tu es le premier journaliste masculin à qui je parle, me lance-t-il. C'est effectivement révélateur et un peu troublant. Il y aurait donc un malaise de la part des hommes à parler d'une masculinité qui s'éloigne des stéréotypes? Oui et non, répond Michael Carlier. Oui, parce que l'époque rend le sujet sensible. Mais non, parce qu'il y a plein d'hommes qui ne se retrouvent pas dans le modèle patriarcal. Le modèle de l'homme dominant, en pleine capacité de ses moyens en permanence, c'est un fardeau sur les épaules. Il y a bien des hommes qui ne veulent pas ça. Conscient que plusieurs hommes hésiteront à se mettre de l'avant dans un tel concours, les organisateurs permettent de soumettre la candidature de quelqu'un d'autre. Et quel profil d'homme cherche-t-on exactement? On ne veut pas des gens qui ont atteint la perfection et qui peuvent dire qu'ils ont tout compris de l'être humain, insiste Michael Carlier. Mais sans être parfait, on veut des hommes qui ont réfléchi à ce que ça veut dire être un homme. Ils ont effectué un certain travail d'introspection. Ils sont à l'écoute, empathiques, capables de nommer leurs émotions. Ils sont dans une démarche de coopération et pas de domination. Michael Carlier l'admet, il aimerait que le concours fasse plus de bruit qu'en 2024. On aimerait qu'il y ait plus d'artistes ou d'entrepreneurs de renom, par exemple, dit-il. C'est intéressant aussi de montrer qu'on peut réussir sans utiliser la domination. Ça vient brasser les critères de réussite sociale. Convaincu? À vos candidatures, messieurs. Les gagnants du concours Masculinité positive 2024, Jean-Marc Bouchard, fondateur de l'organisme En Phase, qui vient en aide aux hommes victimes d'abus sexuels. Thierry Prieur, un photographe qui utilise l'art photographique pour questionner les stéréotypes physiques. Éric Trudel, coordonnateur pour la capitale nationale de l'organisme Homme Québec. C'était « Rechercher homme aux antipodes d'Andrew Tate », un texte de Philippe Mercure, paru le 18 mars 2025 dans la presse.